Madame,
c'est à quel sujet?
Excusez-moi de vous déranger, mais on m'a parlé d'un appartement.
Il y aura du béton impeccable et du béton mal fichu. Ce qui reste, c'est qu'il y a de l'architecture dedans. Et tout le problème est là-dedans. Qu'est-ce que vous avez voulu me dire?
Le génie des lieux. Camille Jusa, Lionel Quentin.
Porte numéro 47. Et maintenant, 10 ans, on foutra ça en l'air, monsieur, comme par le passé. Car c'est une honte. Regardez-moi la tête que ça a. On dirait une triphilerie de pétrole.
Mais c'est gentil aussi.
Et les conditions, vous les connaissez?
Bah, il y aura un supplément pour l'eau, la plomberie est toute neuve.
L'architecture, on la ressent. On la ressent physiquement.
La porte.
Le couvent de la Tourette par Le Corbusier, du béton entre terre et ciel.
Alors, j'aime bien commencer de découvrir le couvent. Ici, au bout de cette allée cavalière, en face du couvent. Et il faut préciser peut-être une chose, c'est que l'allée cavalière n'est pas dans l'axe du couvent. Donc le couvent se laisse découvrir au dernier moment. Parce qu'il y a des arbres, il est caché, et c'est au dernier moment, toc, là vous tombez face au couvent et à cette énorme église, ces grands murs de béton. Il faut le reconnaître, c'est pas hyper accueillant. Et Le Corbusier dit, si vous voulez comprendre quelque chose dans ce bâtiment, non seulement il faut en faire le tour, et après il faut rentrer à l'intérieur. C'est à l'intérieur que l'essentiel se vit.
Est-ce que vous connaissiez le couvent de la Tourette?
Oui, oui. Bah, j'habite pas loin, j'habite à 4 km. Voilà.
Vous êtes venu le montrer à vous?
Non, on est venu, on voulait marcher. Ma fille me fait... Je découvre que ma fille n'était jamais venue.
Ah.
J'aurais voulu au moins qu'elle voie l'église. Bon, j'ai essayé de lui expliquer un peu l'église. Les canons de lumière, tout ça. Il faut dire que j'avais eu la chance, il y a des années, d'avoir visité la Tourette... Et puis il y a un Dominicain qui nous a fait visiter, qui nous a tout expliqué. Du coup, je disais à Isabelle, ce qui me paraissait un truc abominable, enfin, pas bon quoi. Je comprends ce que voulait Le Corbusier, d'où il avait pris ça.
Et vous, vous avez l'impression que c'était abominable en arrivant?
Ah mais oui, j'ai dit, c'est quoi ce truc horrible?
Moi, je me suis dit, ils ont fait quelque chose de beau à l'intérieur. Maman me dit, non, dedans, c'est aussi moche.
Je ne t'ai pas tout à fait dit ça, mais je t'ai dit, il n'y a rien dedans. Pour moi, me recueillir, c'est pas là, quoi. Pour moi, hein, c'est trop... Oui, c'est trop moderne, c'est trop... Puis c'est du béton.
À l'invitation des frères, et notamment du père Couturier, qui était très lié avec les artistes, le renouveau de l'art sacré, et il invite Le Corbusier à aller visiter l'abbaye du Toronnet, qui est une abbaye cistercienne du XIIe siècle en Provence. Alors on se dit, mais pourquoi les montrer comme modèle une abbaye cistercienne alors que c'est pour construire un couvent dominicain? Mais il y avait là aussi cette idée aussi d'avoir une architecture extrêmement rigoureuse, très pure. L'architecture cistercienne, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de fresques, de vitraux, de sculptures, on est juste dans un jeu de volume et de lumière. Et Le Corbusier reprend ceci en disant, j'ai construit le couvent avec deux matériaux, le béton et la lumière.
Et c'est bien un mur de béton que le couvent de la Tourette nous présente d'emblée. On voudrait tout de suite en faire le tour en courant pour essayer de comprendre l'engin, tant il est pour l'instant opaque. Sur la façade, en partant du haut, des dizaines de petites loggias. Dessous, de grands montants de béton au rythme irrégulier. Du béton, il y en a donc partout et sous toutes ses formes. Pour l'instant, la Tourette, c'est donc un énorme blocos posé dans une prairie. En 1952, le programme donné à Le Corbusier par les frères dominicains en quête de modernité est somme toute assez simple. Il est demandé à l'architecte de construire un couvent pour une centaine d'apprentis prêtres, dans lequel il faudra loger, lui dit-on, tout ce qu'on trouve habituellement dans un couvent. Des cellules, bien sûr, mais aussi des espaces collectifs, cuisine, réfectoire, bibliothèque, et des espaces spirituels, dont une grande église. Crise de vocation oblige, il n'y a plus d'étudiants à la Tourette. Une petite communauté de 11 frères y vit aujourd'hui, qui reçoit de manière spartiate qui veut s'y retirer quelques jours. Dans un interstice, on aperçoit au centre de ce grand rectangle une cour hérissée de grands volumes géométriques et un sol qui se dérobe. Face à ce chaos brutaliste, on se demande comment les frères vivent leur foi dans tant de béton et comment l'architecture moderne peut rencontrer cet objet millénaire qu'est un couvent.
Ce qui est intéressant à remarquer, c'est de remarquer que les espaces dans lesquels nous vivons sont construits sur pilotis, entre terre et ciel. C'est ce qu'avait voulu le père Couturier, qui avait dit à Le Corbusier, construisez-nous un couvent entre terre et ciel. En revanche, les bâtiments les plus spirituels du couvent, les parties les plus spirituelles, l'église et la crypte, elles sont construites sur le sol, directement, en prise avec le sol. C'est-à-dire que l'endroit où les frères se retrouvent, où nous prions, on n'est pas coupé du monde entre terre et ciel, mais on est ancré sur la terre, ancré, en prise avec le monde et notre humanité. Et je trouve que là, symboliquement, Le Corbusier donne du sens.
On entre ?
Oui.
Mesdames, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous venez pour le stage de yoga. Alors, je ne vais pas dire que vous êtes les deux dernières, parce que vous n'êtes pas nombreuses, donc il en faut. Donc, j'imagine que vous êtes Madame Alarousse et Madame Doitran.
C'est ça.
Voilà, tout le monde est là, c'est parfait.
Vous avez gagné.
Je vous souhaite la bienvenue.
Merci.
Je vous donne vos cellules pour le week-end. Madame Alarousse, c'est la 56. Madame Doitran, c'est la 58.
D'accord.
Vous êtes toutes les 7 dans la même partie du bâtiment.
D'accord.
L'étage 5, donc tout en haut, sur la façade sud. Et je crois que c'est peut-être là que vous aviez été logée la fois dernière. Je crois qu'il y a d'autres personnes que j'ai accueillies avant qui m'ont dit, mais je crois que c'était au même endroit.
Façade sud.
Okay. Façade sud, il y a vos noms sur les portes, il y a les clés sur les portes.
Je vais vous accompagner. C'est gentil. J'avais pas clé, tu vois, c'est
n'importe laquelle.
La 79.
Ça, ce sont les cellules des frères étudiants. Donc, vous voyez, on a cette proportion de 1,83 m de large sur 2,26 m de haut. Voilà. Au fond de la chambre, il fait sombre, près de la porte. Et au bout, il y a la lumière avec la fenêtre. Et on va vraiment de l'ombre vers la lumière. Quand vous entrez dans la chambre, la première chose que vous avez sur le côté, c'est le lavabo, avec l'armoire. Le lavabo et l'armoire sont pour les fonctions corporelles de se laver et de s'habiller. Ensuite, vous avez le lit pour vous reposer. Puis, près de la fenêtre, la table, le bureau pour le travail intellectuel. Et la loggia, là où il y a la lumière, avec le petit carré sur le côté, qui est le carré qu'on en appelle de la méditation. C'est là où on pouvait mettre ce qu'on voulait pour faire une méditation. Et donc, je trouve ça symboliquement très juste. Vous allez près de la porte, vous avez un chemin qui va de la porte vers la fenêtre, donc de l'ombre vers la lumière, et vous avez des fonctions corporelles, intellectuelles et spirituelles. Et donc, en fait, Le Corbusier organise l'agencement de l'espace. Ce qui est très intéressant, c'est quand vous êtes dans votre lit ou à votre table de travail, vous ne voyez pas le lavabo, puisqu'il est à l'entrée et masqué par l'armoire. Ça, c'est très important. C'est que cette rigueur, cette, une certaine austérité quand même, n'était pas pour déplaire justement aux frères qui passaient cette commande. Pour des religieux, ça s'adaptait très très bien. Alors, je voudrais peut-être insister, quand on est à l'intérieur de la cellule, on a l'impression qu'il y a un cadre. Et Le Corbusier dit « Je vous ai encadré le paysage ». Quand on a une vue générale, finalement, on veut tout voir et on ne voit rien, parce que le regard flotte, le regard n'est pas cadré. Et donc, mieux vaut montrer moins, mais mieux. Et il y a ce cadrage du paysage. Alors, quand on est sur la prairie sud, on a une belle vue, et quand on est en plus à l'ouest, alors là, on a une vue à 30 km qui est cadrée.
Et là, c'est un tilleul, c'est ça ?
Oui, là, ici, nous sommes dans la partie est, on est face à un tilleul.
Et donc, le béton, comme ça, débouche sur cette très jolie feuille de tilleul. Dans un couvent, on fait tenir toute une vie.
de la cellule à l'église, de l'église au réfectoire, du réfectoire à la bibliothèque. C'est une petite société parfaitement adaptée au concept d'unité d'habitation cher à Le Corbusier. Ces bâtiments étanches, abritant plusieurs fonctions, est bien ordonné. À la Tourette, même rationalité, même étanchéité. Les cellules sont en haut, les espaces communs occupent le bas du bâtiment en U. On circule à l'abri, dans de grands corridors qui courent le long des façades. Tout est fermé donc, sauf que tout est percé. À cet étage, ce sont de longues meurtrières ininterrompues, à hauteur de regard, qui vous attirent comme un aimant de l'autre côté de la cour.
Alors, je vous propose que nous prenions un grand corridor. Vous avez un mur sur le gueule à droite, un grand mur, et sur la gauche, vous avez cette fenêtre en bandeau qui va d'un bout à l'autre. À travers cette fenêtre passe le soleil. Nous sommes à l'est en ce moment. Et nous avons au sol la projection lumineuse du soleil à travers la fenêtre. C'est-à-dire que Le Corbusier a cette idée que quand il ouvre une fenêtre, il ne pense pas seulement à ce que nous voyons à l'extérieur, il pense à la forme de la fenêtre, comment la lumière va-t-elle entrer. Et donc, c'est ça que j'aime dans cette architecture. Dans 2 heures, vous repassez, il n'y aura plus la même chose. Ça sera différent. Et c'est ça qui est bien dans une architecture aussi rigoureuse. Comme il n'y a pas de décoration pour nous distraire, finalement, elle nous apprend, cette architecture, à devenir attentif au jeu des lumières, de l'ombre, finalement quelque chose de très vivant. Et c'est une architecture qui nous sollicite à rester attentif à ce que l'on voit.
Et comme les façades ne sont pas lisses, ni les encadrements de fenêtres, eh bien la projection de la lumière sur le sol n'est pas tranchée non plus, et ça vibre aussi.
Elle vibre aussi, tout à fait. En fait, c'est vraiment une architecture, moi je trouve, hein, qui nous apprend à regarder.
Donc là, il est midi moins 3. Et qu'est-ce que vous allez faire ?
Je vais sonner la cloche pour signifier qu'on va commencer la messe dans 5 minutes. Voilà, donc là, on va sonner la cloche qui est dans l'église. Et donc on tire une corde depuis le bas. Voilà.
À l'ancienne.
À l'ancienne.
Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous êtes venu au couvent ? Quelle a été votre impression ?
Le couvent La Tourette. Alors moi, j'ai eu une impression assez positive, en fait, parce que donc c'était avant que j'entre dans l'ordre. J'étais ingénieur de formation et mon père était un spécialiste des grands barrages. Et en fait, j'ai toujours connu un peu ce type d'architecture de béton, de montagne. Ça m'a ce côté à la fois très solennel, très impressionnant, parce qu'il y a une masse impressionnante quand on arrive. On prend toute cette masse de murs très verticaux, un peu sur la tête. Et puis ce côté très sobre du béton aussi. C'est un matériau qui est pauvre. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un peu l'architecture HLM des années 60. Hein. Et le lien entre les barrages et le couvent de la Tourette, c'est qu'en fait, Le Corbusier avait demandé à un consortium d'entreprises qui savaient faire le béton. Et c'est des entreprises qui avaient travaillé sur les grands barrages. Mmh. Donc c'est impressionnant, si vous voulez. Mais en même temps, il y a une forme d'austérité. C'est un peu comme une expérience qu'on peut faire dans le désert. Mais en même temps, dès qu'il y a un peu de couleur, on y est extrêmement sensible. Mmh. Et puis, moi, ce que je dis aux visiteurs là, qui viennent, on fait beaucoup de visites, en fait, hein, tous les frères. Il y a souvent ce choc qui est extrêmement rude. Ils ne voient que le béton. Mais nous, quand on vit dans le couvent, ce ne sont pas les murs qu'on voit, puis ce sont des murs qui sont ajourés, puisqu'on a ce principe de ce qu'on appelle la façade rideau, puisque ce sont les piliers qui portent. Donc, on peut mettre du verre un peu partout. Nous, on est dans le paysage. C'est un bâtiment, en fait, où on voit le ciel, on voit le soleil, on voit la lune, on voit les étoiles, on voit les saisons. et on vit dans la nature, en fait. On n'a pas du tout cette impression d'être dans un bunker, comme on nous dit, d'architecture un peu militaire, même s'il y a effectivement cette dimension est présente.
L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par son esprit qui habite en nous. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Donc nous sommes à l'intérieur de cet énorme parallépipède de béton. Nous sommes dans l'église.
Oui, enfin, moi j'aurais dit un immense vide. Plus que masse de béton. Le béton n'est que l'enveloppe. Et nous avons cet espace. Et ça, Le Corbusier disait qu'il voulait rendre la présence de Dieu non pas par la décoration, mais par les proportions, l'harmonie des proportions, du volume, de la lumière. Et que finalement, il dit, quand un bâtiment est à son maximum de proportions, d'harmonie, il se met à rayonner de lui-même. J'appelle cela l'espace indicible. Et ce qui est étonnant, voyez-vous, c'est que de l'extérieur, vous avez parlé tout à l'heure de blocos, parce qu'effectivement, on ne voit que des murs sans ouverture apparente. En revanche, une fois que nous sommes à l'intérieur, on s'aperçoit que Le Corbusier a ouvert des fentes de lumière, des canons de lumière, des puits de lumière. Vous avez une austérité, une grandeur, une noblesse des formes, une rigueur, qui porte à la méditation, qui porte à la spiritualité.
Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'échelle. Tout à l'heure, vous parliez de la question du corps quand nous étions dans cette petite cellule. Comment on passe de ces échelles toutes petites, hein, ce 1m83 sur 5m92, à cette boîte immense dans laquelle on est? Comment le corps vit dans cet endroit?
C'est très intéressant votre question, parce qu'effectivement, il y a des rapports d'échelle quand même qui sont... On passe de l'intime au monumental. En quelques pas, vous passez de l'intime, de la cellule, au monumental de l'église. Alors, on dit, il faudrait vérifier, hein, mais que, en tout cas, l'idée est belle, c'est que le volume de votre chambre, enfin, le volume de l'église, est égal à la somme du volume de toutes les chambres. Et quand tous sont réunis, on dispose du même volume.
Et c'est la communauté.
Et c'est la communauté.
Qu'est-ce que vous faites ici, vous ?
Moi, je fais le service, on nettoie les cellules pour les prochains invités. On fait beaucoup de ménage.
Et donc là, vous avez dressé des tables pour une quinzaine d'hôtes aujourd'hui ?
Normalement, on est 25 à midi.
C'est pas mal quand même.
C'est mieux que rien. Mais comme samedi soir, il y avait un vernissage là. Je ne sais pas si vous avez vu, à côté.
Dans la salle du chapitre ?
Voilà, oui. Ils étaient 83 à manger le soir.
Ah ouais.
C'est vrai qu'il y avait pas mal de monde.
Et vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu le couvent ?
Je le cherchais déjà. Parce que j'arrivais en bas et c'était pas en bas, c'était ici. Mmh. C'est vrai que la première fois, on cherche un petit peu, quoi.
Pourtant, il est gigantesque.
Bah oui. Je pensais plutôt, vous savez, une vieille église. Pas un couvent comme ça, quoi.
Qu'est-ce que vous avez dit la première fois que vous l'avez vu ?
Je ne sais pas si je devais repartir ou pas, la première fois.
Pourquoi ?
Parce que quand on fait le ménage, c'est pas pareil, quoi. Il y a plein de... Le béton, c'est pas pareil.
Pourquoi ?
C'est plus salissant, c'est plus... Ça vaut pas un lino, quoi.
Ah, voilà les étudiants.
Voilà. Le frère Paul...
Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour Sainte Catherine. Sans trêve, elle a servi ton Église, le regard fixé sur ton Fils unique. Nous te rendons grâce pour l'abondance de tes dons, en celui qui est la vérité et la vie, Jésus le Christ, notre Sauveur.
Amen.
Bon appétit.
Thank you.
Ici, dans le réfectoire, le couvent disparaît presque. D'immenses baies vitrées nous projettent dans le paysage. Les fins montants de béton que nous avions vus dehors, disposés de manière irrégulière, dilatent et resserrent les pans de verre, découpent le paysage en de multiples petits tableaux, projettent leurs ombres sur le sol. Dessiné de manière quasi mathématique par le collaborateur de Le Corbusier, Yanis Xenakis, ils ondulent, répandant une variation infinie d'ombre et de lumière partout dans le couvent.
Ici, il y a plein d'imperfections. Le coffrage n'est pas bien fait et on pourrait faire une visite dans le couvent où on verrait toutes les imperfections. En fait, Le Corbusier dit « mais c'est pas grave, c'est la trace de l'erreur d'un homme ». Et puis, ça ne porte pas atteinte au dessin, ça ne porte pas atteinte à la solidité, et donc finalement, c'est bien ainsi. Et voyez-vous, on est convaincus, nous les frères, que ce sont justement toutes ces imperfections qui rendent le bâtiment aimable.
On a, quand on visite une église baroque, par exemple, on voit l'effort qu'à un moment l'église a pu mettre dans beaucoup de volutes, de dessins, de représentations. Là, on est vraiment absolument à l'opposé de ça. Mmh. Comment ça se joue, la spiritualité, dans le béton, j'ai envie de...
En fait, je pense que c'est pas dans le béton, mais c'est plutôt dans des espaces à la conception assez rigoureuse, sans décoration, et donc finalement une invitation à une intériorité plus grande. Rien ne va me distraire, je suis là plutôt dans un couvent d'études, pour travailler, de concentration, de recueillement. On débute dans la vie religieuse, donc apprendre à prier, apprendre à vivre ensemble, apprendre le silence, apprendre la solitude de la chambre. Ça s'apprend, voilà, mais avec ces espaces communs, où on peut avoir une vie commune qui s'y développe avec des discussions, de la joie de vivre, enfin, et du partage.
On est entré sous le bâtiment, hein, à l'endroit où il se laisse, on peut passer dessous, et donc on découvre l'intérieur du bâtiment, ce qui, dans une architecture classique de couvent, aurait été l'intérieur du cloître, un petit jardin carré, parfois avec une fontaine au centre. Là, c'est absolument pas ça. La première image qui m'est venue hier, quand je suis arrivée, c'était quelque chose d'assez fracassant. En tout cas, il y a des tas de choses qui se passent au centre de ce couvent. D'abord, ce terrain complètement ondulant, qui se dérobent, et des tas de formes géométriques qui, pour l'instant, nous sont évidemment assez obscures.
Alors, Saint-Dominique, et à la même époque, il y a Saint-François, créent les ordres mendiants, où nous sommes en ville, nous vivons du travail intellectuel et de la mendicité. Ce sont les ordres mendiants. Et donc, vous avez, dans un couvent dominicain, un cloître, souvent carré, avec un petit jardin, les chambres qui donnent sur le petit jardin, avec sa fontaine, comme vous le disiez, et autour, vous avez la ville. Ici, Le Corbusier dit, la nature, vous l'avez tout autour. Donc les chambres regardent vers l'extérieur, sur la nature, et donc il dit, je vous mets la ville à l'intérieur. Et donc, pour moi, je n'aime pas tellement appeler cet grand espace ici, intérieur, le cloître, je préfère appeler ça la cour intérieure. Parce que nous sommes face à une petite cité, une petite ville en miniature. Vous avez, sur le côté droit, la grande église, bâtiment principal. Les trois ailes, les trois autres ailes, qui sont les ailes d'habitation, ça devient comme trois immeubles. Au centre, pour relier ces quatre ailes, les trois ailes avec l'église, vous avez des grands conduits posés sur pilotis, éclairés par des fenêtres de Xenakis avec des pans de verre ondulatoires. Ça devient des grands axes de circulation. Et moi qui viens, enfin, quand je suis rentré dans l'ordre, je venais de quitter Paris, où j'avais toujours vécu à Paris, en centre-ville, et je vis très bien ici, alors qu'on est quand même à la campagne, parce qu'en fait, on vit dans ce couvent comme on vit en ville. Il y a quelque chose d'urbain.
Frère Pascal, vous dites que c'est une architecture exigeante, cette architecture de Le Corbusier.
Elle est exigeante par ses lignes. Par la brutalité, on peut dire, du matériau, du béton. Et donc elle nous pousse un peu dans nos derniers retranchements, je pourrais dire, de ce point de vue-là, aussi bien dans le mode de vie, qui est un mode de vie, je dirais, simple, aussi simple que le matériau, voilà, d'apprendre à vivre de manière assez frugale, qu'également, je dirais aussi, un peu dans notre pensée. Le bâtiment joue beaucoup sur les contrastes entre le visible et l'invisible, la lumière et l'ombre. Et donc, je crois que c'est un contraste qui est très profondément enraciné en l'homme. Et je crois que c'est sans doute le génie de Le Corbusier que de penser l'architecture à partir de ces contrastes fondamentaux. C'est un contraste de l'homme, je pense. Voilà, c'est quelque chose qui nous parle de nous en tant qu'homme, en tant qu'humain, disons, en tant qu'humain, et d'une façon qui est plus originaire que toute représentation, qu'elle soit d'ordre philosophique, religieuse, politique, etc. Vous voyez, c'est un bâtiment qui a une structuration anthropologique très, très forte, très puissante. Et c'est à ce point-là qu'elle peut nous toucher, je dirais.
Est-ce que ça convient à tout le monde ?
Est-ce que ça convient à tout le monde ? Je dirais oui, parce que c'est pas quelque chose d'élitiste, vous voyez ? Enfin, oui et non, c'est-à-dire que ça peut convenir à tout le monde, et en même temps, peut-être que tout le monde n'est pas encore prêt, donc c'est quelque chose de peut-être de trop rude. Nous savons que pour certains frères, c'est extrêmement difficile de vivre la Tourette, mais c'est pas du tout en un sens élitiste, vous voyez, hein, parce que ça repose sur quelque chose de vraiment de très minimal, qui tient à notre rapport à la vie, vous voyez, donc c'est. Et nous savons que lorsque des hôtes nous appellent pour nous dire qu'ils aimeraient faire une retraite, un temps de retraite à la Tourette, et la raison étant parce qu'ils ne vont pas bien, eh bien on ne les encourage pas à venir à la Tourette. Voilà, parce que c'est un lieu où il faut pouvoir se reposer en soi-même et donc trouver une certaine paix intérieure. Je ne pense pas que la Tourette puisse donner cette paix, mais elle peut peut-être permettre de l'approfondir si on y est déjà suffisamment peut-être situé soi-même. Voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là.
Moi, sur la deuxième branche, j'éclairais avec ma figure des nuits d'été.
C'était Le génie des lieux, le couvent de la Tourette, du béton entre terre et ciel. Avec Marc Chauveau, Pascal Marin. Merci à la communauté des frères dominicains, à Flore Viennot et Florence Damet, ainsi qu'aux hôtes de la Tourette. Prise de son, Yvan Turc. Mixage, Bernard Laniel. Une émission de Camille Jusa, réalisée par Lionel Quentin. La semaine prochaine, nous nous demanderons ce que peut être une bibliothèque municipale à l'heure d'Internet. Nous irons voir celle flambant neuve de Caen, construite par le très rare architecte Rem Koolhaas.